Il aimait beaucoup sauver de l'argent. C'était vraiment son but ultime, sauver de l'argent. Et elle ne mangeait jamais son gruau chaud parce que ça coûtait trop cher le réchauffer. Et elle a poussé l'audace jusqu'à ce que son fils perde sa jambe parce qu'elle a attendu trop longtemps pour avoir les soins gratuits et son fils a eu une gangrène et ensuite a dû couper la jambe. Finalement, lorsqu'elle est décédée, cette dame-là valait 100 millions de dollars. On pourrait dire, ouais, elle était folle, elle était déréglée peut-être. Elle était inconsciente de tout ce qu'elle avait, peut-être. Mais le fait est, c'est qu'elle avait des richesses et qu'elle n'en a jamais utilisé le moindre sou. Elle a vécu dans la misère, pauvrement, parce qu'elle voulait garder ses richesses pour on ne sait quoi. Le livre d'Éphésiens parle de richesses, parle d'énormes richesses. Mais beaucoup de chrétiens ne les laissent dormir dans le fond d'un tiroir, ou plutôt dans le fond d'un livre fermé, et ne l'ouvre pas pour voir quelles richesses qu'ils ont à leur disposition. L'Épître aux Éphésiens, c'est Paul qui l'écrit, et Paul commence en disant, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est déjà le troisième verset annonce la suite du livre. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. À qui? À qui est destinée la lettre? C'est simple, il dit, aux saints qui sont à Éphèse entre parenthèses, dans ma version, et aux fidèles en Jésus-Christ. Aux saints. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que l'on entend depuis déjà un bon bout de temps à l'Église catholique où un certain frère André a été canonisé. Saint veut dire être mis à part. J'ai pas eu besoin de faire deux miracles et surtout pas d'avoir une vie exemplaire pour être saint. Je vous le garantis, je n'aurais jamais été capable d'être saint. J'aurais été le dernier. Il n'était impossible que je puisse être nommé saint selon la religion populaire. Nous sommes saints parce que Dieu a décidé de l'être, que nous l'étions. Dieu a décidé de nous mettre à part. Dieu a décidé de faire de nous des hommes et des femmes saints et saintes. Il a fait de nous ses enfants d'adoption, mis à part. C'est un peu comme la relation que j'ai avec mes trois filles. J'ai aucune de mes filles à soir dans la salle, mais j'ai une relation particulière que je n'aurai jamais avec vous. Dans une certaine manière de dire, mes filles sont mises à part. Je vais faire des choses pour elles que je ne ferai pas pour vous. Je vais avoir une relation particulière avec mes filles que je n'aurai pas avec vous. Maintenant, mes filles et les maris de mes filles aussi. Ben, je dis, il est là. Ce n'est pas un clergé. Ce n'est pas un conseil d'anciens ou certains responsables à quelque part qui ont fait que j'ai été nommé, que nous soyons saints. Le terme saint vient de Dieu. Et ça vient de la parole de Dieu. Et vous remarquerez que nulle part dans la parole, il est mentionné un saint en particulier. Le saint est toujours utilisé au pluriel lorsqu'il est question de personne. Ce n'est pas un saint en particulier, c'est un groupe de saints, c'est un ensemble. Nous sommes tous saints en lui. Le deuxième terme, fidèle, et aux fidèles en Jésus-Christ. C'est assez bizarre à comprendre. D'ailleurs, notre frère ce matin nous en a fait mention du mot fidèle, il parlait de Fidel Castro, mais lorsqu'on parle de quelqu'un qui est fidèle, ça va y être attribué à lui, normalement. Il m'est arrivé une certaine année où ce que j'ai eu à faire du travail par des frères de l'Assemblée ici, puis ça prenait un certain temps, ça a pris un mois ou deux, et je les ai demandé de faire des choses très précises durant ces deux mois-là. Et fidèlement, ils ont fait les choses comme il se devait d'être fait. Et je disais à ces jeunes-là, « Ah, je dis, vous autres, vous êtes mes fidèles. Vous êtes fidèles dans ce que vous faites. Vous faites toujours la bonne chose au bon moment, vous n'avez jamais passé à côté, waouh, vous êtes fidèle. » Sauf que ça s'est arrêté au bout de deux mois. Je ne sais pas si ça aurait été la même chose si on avait tiré des années. Je ne crois pas. Moi non plus, je ne peux pas être fidèle et je ne crois pas qu'aucun de nous ici peut être fidèle. Mais pourtant, Paul parle aux fidèles en Jésus-Christ. Il est beaucoup plus question de la fidélité de Dieu pour nous que notre propre fidélité. Il est fidèle. Malgré que nous soyons en dehors de la volonté de Dieu, bien souvent, il est fidèle. Et c'est déjà là une bénédiction que nous soyons nommés saints et que nous ayons attribué cette qualité de fidélité. Mais ça ne vient pas de nous. C'est seulement que de Dieu. Ce n'est pas des attributs qui sont donnés sur la base de nos mérites personnels, mais c'est fait sur ce que Dieu a accompli et continue d'accomplir en nous. Et c'est comme ça qu'on peut être appelé saint et fidèle. Dans certains manuscrits, le nom d'Éphèse n'est pas mentionné. D'ailleurs, c'est pour ça que à Éphèse est en parenthèse dans ma version. Je ne sais pas s'il est dans la vôtre. Mais il est raisonnable de penser que cette lettre-là a été une lettre circulaire qui a été lue à Éphèse, probablement, et ensuite qui s'est promenée dans toute l'Asie et que plusieurs personnes ont lue. Lisez dans certains commentaires qu'il pouvait avoir dans la région romaine de l'Asie 320 communautés. Ça fait beaucoup de monde, ça, qui lisent la lettre que Paul a écrite. Si cette lettre-là s'est promenée moindrement dans l'Asie, elle a eu beaucoup de lecteurs. C'est une lettre qui traverse le temps, les époques, et qui réussit encore à parler à nos cœurs. On peut facilement se placer directement le bénéficiaire de ce qui est dit dans cette lettre-là. On ne peut pas dire « ouais, mais c'était pour ce temps-là ». On ne peut pas dire, comme dans certains écrits d'autres épîtres, « ouais, mais c'était comme dans ce temps-là, mais aujourd'hui, c'est plus tout à fait pareil ». Jamais. Tout ce qui est dit là peut être pris personnellement pour chacun de nous. On dit que Paul aurait écrit cette lettre-là aux Éphésiens parce que Paul connaissait bien Éphèse. Il connaissait Éphèse, c'est-à-dire qu'il y avait vécu 3 ans. Et on peut le lire et on va y aller tout à l'heure. On va y aller tout à l'heure dans Excusez. Il a vécu 3 ans et on va lire dans les actes 19. Éphèse. Non? Oui? Non? Voilà. Oh. OK. Voilà. Éphèse. Vous voyez Éphésus, juste au-dessus de Caria, la ville d'Éphèse, une ville portuaire, et qui est placée comme, qui est considérée comme la ville reine de l'Asie. C'est une ville, une grande ville, la porte d'entrée de toute cette grande région de l'Asie. Une grande ville, très populaire. Et qui dit ville portuaire, dit porte d'entrée de toutes les influences mondiales. On vit dans une ville portuaire. Trois-Rivières est une ville portuaire. C'est pas tellement gros comme ville, mais imaginez une grande ville comme Éphèse, où plusieurs personnes vivent là. Et beaucoup d'influences arrivent. J'ai vécu un bout de temps à San Francisco et c'est la même chose. Beaucoup d'influences arrivent dans cette ville et se répandent à travers les États-Unis, à travers les villes portuaires. Surtout que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'aéroport. La seule porte d'entrée était la mer. Donc, c'est une ville reine. Dans cette ville, il y avait un temple. Le temple dédié à Diane, la déesse de la chasse. Je ne suis pas sûr de cette information-là, j'ai lu sur un autre site, mais c'était une déesse. Et c'était un temple magnifique qui était considéré comme l'une des sept merveilles du monde ancien. Il avait 350 pieds de long, c'est-à-dire trois fois mon terrain chez nous. Ça commence à être long. C'était 150 pieds de large. Il y avait 177 colonnes de 55 pieds de haut. Le dessus, le plafond était en marbre blanc. C'était un temple magnifique. Pour faire partie des sept merveilles du monde, il fallait que ça soit grand, il fallait que ça soit majestueux. Et c'était tellement majestueux que des milliers de personnes visitaient ce temple-là d'année en année. Naturellement, si des milliers de personnes vont dans une ville, viennent d'ailleurs et vont dans une ville, ils laissent chacun quelques petits sous. Lorsqu'ils visitaient le temple, ils achetaient toutes sortes de choses. On va là, on mange, on achète du souvenir. Et ça me fait penser à un certain temple qu'on a à Montréal, hein, le Centre Bell. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté une game de hockey là, mais si j'allais là, je n'ai jamais été, si j'allais au Centre Bell, j'irais me chercher au moins un tapis de souris. Au moins ça. Ou je partirais peut-être avec un gilet du Canadien, ou une tasse de café, ou n'importe quoi, mais je ressortirais avec quelque chose. Parce que j'ai été dans un temple, je vais ressortir avec un souvenir. Des milliers de personnes qui allaient là donnaient de l'argent. Dépensait dans ces voyages-là. Donc, ça faisait de cette ville, avec son temple, une ville très riche, très populaire et très riche. Et les prêtres de la ville, profitant de la popularité et des richesses de la ville, sont devenus les banquiers de l'Asie. Ils pouvaient prêter, ils négociaient, et c'est une ville qui était de plus en plus riche. L'Éphèse représentait un succès religieux de l'époque. C'est important. Paul a certainement été influencé dans ses écrits de cette situation-là. On voit d'ailleurs dans Actes 19, sans que vous tourniez cet écrit-là, on voit que Démétrius, un orfèvre, quelqu'un qui faisait des bijoux et des œuvres d'art, procurait à ses ouvriers un gain considérable. Et il voyait, lui, de la prédication de Paul à Éphèse, le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent, mais encore que le temple de la grande déesse ne soit tenu pour rien. C'était vraiment toute une affaire, le temple de Diane, la grande déesse. Et surtout, c'était beaucoup d'argent. Le même exemple, si tout le monde arrêtait d'aller au temple qu'il y a à Montréal, au temple des Canadiens, ça ferait dur à Montréal. C'est la même chose, c'est la même idée. Probablement que les discours de Paul, Paul écrivait des choses avec cette idée en arrière de richesse et d'héritage. Et à 8 reprises, dans les 3 premiers chapitres, Paul mentionne les richesses. Il mentionne que nous sommes riches de la richesse de Dieu. Il va même préciser au chapitre 2, versets 20 à 22, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » On voit l'allusion. Probablement que quelqu'un qui vivait en Éphèse était capable de faire le lien entre le temple de la grande Diane et ce qu'il était lui. Il était devenu lui-même le temple saint dans le Seigneur. Ça replaçait les valeurs aux bons endroits. C'est d'ailleurs ce que Éphèse fait, la lettre aux Éphésiens fait. Elle replace les valeurs aux bons endroits. Mais cette ville était aussi un grand centre d'influence satanique, de magie, de sorcellerie. Et on voit même dans les Actes 19, les gens qui se convertissaient au Seigneur brûlaient des livres. Et le texte relate qu'ils ont brûlé pour 50 000 pièces d'argent de livres de magie. 50 000 pièces d'argent. Déjà aujourd'hui, 50 000 pièces d'argent, c'est beaucoup d'argent. Mais dans ce temps-là, une pièce d'argent était le salaire d'un ouvrier agricole pour une journée de travail. Donc, les gens qui se sont convertis au Seigneur ont brûlé pour 50 000 journées de travail d'un ouvrier. Ça commence à être une somme importante. Donc, il y avait un mouvement dans cette ville de conversion évident. Ça me fait penser lorsque j'ai accepté le Seigneur. J'avais dans ma bibliothèque, j'avais dans ma discothèque, dans ce temps-là, c'était du vinyle. Vous ne savez peut-être pas c'est quoi du vinyle, là. Mais il y avait des disques de 33 tours, là. C'était des disques grandes même. Et j'avais une belle collection, une grande collection. J'accepte le Seigneur, puis là, je regarde ma collection, puis je sors un disque, puis je me sentais mal de l'écouter. Puis là, un bon matin, je me suis levé, j'ai dit, bon, bien là, c'est fini, on va faire le ménage. De mes 4 pieds de disque, ça s'est réduit à ça. Tous les disques que j'ai jetés, ça m'a fait penser à ça. Je dis, oh, lui, il est bon, mais, ah, non. Je l'ai jeté. Puis ici, non seulement je l'avais jeté, non, je l'ai cassé. Oui, il se cassait dans ce temps-là. Il y avait un mouvement, une conversion évidente. Mais lorsqu'on est converti au Seigneur, on ne peut pas rester juste là. Si j'avais seulement cassé mes disques et retourné dans le monde, ça n'aurait absolument rien fait. Paul se devait d'instruire ces gens-là pour qu'ils aillent plus loin que cela. Ce n'était qu'un pas d'obéissance. Il se devait d'aller plus loin. Donc, Paul écrit aux Éphésiens et les 3 premiers chapitres, qui sont la première grande division, ce sont des chapitres doctrinaux. C'est-à-dire que nous apprenons ou nous confirmons notre connaissance, ce que nous lisons. Et d'après moi, le verset clé est un verset que j'ai lu. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Si vous connaissez ce verset-là par cœur, et je vous exhorte à l'apprendre par cœur, vous avez la raison d'être des trois premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens. J'ai lu d'autres textes, j'ai lu d'autres auteurs, d'autres commentateurs qui plaçaient ailleurs le texte principal. Vous pouvez peut-être trouver un autre texte vous-même si vous creusez, si vous cherchez. Vous ne verrez peut-être pas la même chose que moi. Mais ce que je vois actuellement, c'est les bénédictions de Dieu qui sont répandues, les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il est important, il est très important de connaître ce que nous sommes, de connaître notre position en Christ, car c'est le point majeur. Notre position actuelle, elle est en lui. Et vous verrez à plusieurs reprises ce terme-là, en lui. Et d'ailleurs, au verset 4, au début, « En lui, Dieu nous a élus. » Il va nous mentionner à plusieurs reprises, au verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang. » Toute bénédiction, toute position de privilège vient du fait que nous sommes en lui. Et de rien d'autre. Si moi actuellement, je voulais pour me mettre une valeur, je serais un chèque avec un paquet de zéros. Et Christ serait le chiffre avant. Imaginez maintenant un chèque, comme il présente d'un grand téléthon, là, un grand, grand chèque avec 30 zéros. Wow! Si c'est beau. Ça ne vaut rien. La valeur vient du fait que Christ m'a un avant. Et là, prend toute la valeur du chèque. Enlever Christ, et heureusement, il ne s'enlève pas en moi. Enlever ce un-là, et ça ne vaut plus rien. Et c'est bien ce qu'Éphésiens nous dit. En lui. À plusieurs reprises, vous avez ce texte qui se divise partout. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et le texte en fait mention plus tard. Je vous exhorte à chercher. J'ai cherché. Voici ce que ça m'a donné. Dans le terme « en lui », « en lui-même », « par lui », en Christ, avec Christ, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et même dans le bien-aimé. Voici la liste que j'ai trouvée. Vous pouvez peut-être en trouver une plus grande. Vous pouvez peut-être trouver des choses que je n'ai pas trouvées. Vous pouvez peut-être creuser. Ça vaut la peine d'aller chercher les bénédictions, la position que l'on a en lui. Si les gens d'Éphèse et de la région d'Éphèse pouvaient ressentir une certaine fierté d'avoir ce grand temple que nous venons de voir, de vivre dans une ville aussi prospère et aussi populaire, ils se devaient de connaître leur richesse spirituelle qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Et de constater qu'ils n'avaient absolument rien à envier à ceux qui mettaient leurs espoirs dans les richesses du monde. C'est énorme. Peut-être que nous ne le réalisons pas, peut-être que nous n'avons pas assez creusé pour bien le réaliser. Mais lorsque nous creusons l'Épître aux Éphésiens, lorsque nous regardons verset après verset, lorsque nous méditons, nous réalisons bien des choses que Dieu nous donne. Nous réalisons notre richesse spirituelle en lui. C'est comme si Dieu nous disait, ce que tu vois, si ce que tu vois est très important, ce que tu ne vois pas l'est encore plus. Ce que tu ne vois pas qui est à l'intérieur de toi, que j'ai mis à l'intérieur de toi par ma seule présence, est beaucoup plus important. Il va même dire au verset 18 du chapitre 1, il va dire, « Il désire que les yeux de notre cœur soient illuminés pour que l'on connaisse l'expérience, l'espérance qui est attachée à son appel. » Il veut que les yeux de notre cœur, ceux qui ne voient pas le dehors, mais qui voient bien l'intérieur, soient illuminés, soient ouverts, pour que l'on connaisse l'espérance qui est attachée à son appel. C'est beaucoup plus qu'un temple de marbre, même si c'est un marbre de très haute qualité, même si c'est une bâtisse qui est immense, qui a brûlé d'ailleurs quelques années après par quelqu'un qui voulait être populaire. Personne n'est capable de détruire le temple que j'ai à l'intérieur de moi, que vous avez à l'intérieur de vous. Mais Dieu veut qu'on le voie, ce temple-là. Il veut qu'on ait les yeux de notre cœur qui voient cela. Paul, par l'Esprit, veut que nous fassions de l'introspection. Vous savez ce que c'est, l'introspection? On s'arrête, puis on regarde qui qu'on est à l'intérieur. Lorsque j'ai commencé à enseigner, on me dit, il va falloir que tu fasses de l'introspection. La première fois qu'on m'a dit ça, j'ai dit, « Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ça doit faire mal. » Oui, ça fait mal, dans une certaine mesure. Parce que tu regardes tes erreurs, tu regardes ton cœur, comment est-ce qu'il est, puis tu dis, « Oh, ça, je devrais changer ça. » Tu regardes à l'intérieur et ce que tu vois, peut-être qu'il ne fait pas ton affaire, mais c'est en plein temps de le changer parce que tu viens de constater ce que tu fais, que ce n'est pas correct. Tu viens de constater que tu as besoin de changer cette chose-là dans ta vie. Et c'est à la lumière de la parole que tu vas réaliser cela. À travers la position, la bénédiction, la relation que tu as avec Dieu, privilégiée, que tu vas être capable de réaliser cela. Si je faisais de l'introspection sur mon enseignement, c'est bien parce que j'enseignais. Maintenant, si on me dit « Fais de l'introspection sur comment on passe la balayeuse dans la maison », on va dire « Non, pas capable, pas en tout. Pas que je ne la passe pas. » C'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose que je suis. Si je suis chrétien, Dieu me dit « Regarde comment tu es. Regarde si ça marche avec ce qui est écrit dans ce livre. » Dieu veut que l'on constate que nous sommes son ouvrage, que nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage. Nous ne le faisons pas nous-mêmes. C'est lui qui nous fait. C'est lui qui nous travaille. Et il faut se poser des questions lorsque rien ne change dans nos vies. Et c'est ça que Dieu veut que l'on regarde. À travers les bénédictions de Paul, Paul veut rappeler que si on était une habitation de Dieu, il y avait un centre qui n'est pas une statue. Parce que dans le centre de ce grand temple-là, il y avait la statue de Diane qui avait une hauteur astronomique. Mais au centre de notre temple, dans notre cœur, ce n'est pas une statue, c'est la personne même de Christ qui y habite par la foi, qui y habite enraciné et fondé dans l'amour. Et c'est écrit au chapitre 3, verset 17. Ça me fait penser à un ami qui rencontrait un homme adultère, puis il faisait des remontrances, puis il dit, « Quand tu couchais avec cette femme-là, où est-ce que tu penses que Christ était? » « Où est-ce que tu penses que Christ était lorsque tu faisais ce péché-là? » Et il s'est mis à rougir et à avoir honte. Il venait de réaliser ce qu'il avait fait encore pire. Réalisez-vous, comme notre frère l'a dit ce matin, et je vous le répète ce soir, que notre vie est environnée. Christ nous habite. Le matin qu'on se lève, aller jusqu'au soir qu'on se couche, et même durant la nuit. Et cela pour l'éternité. ça nous amène maintenant aux trois derniers chapitres, du chapitre 4 au chapitre 6. Si les trois premiers sont doctrinales et qui nous parlent continuellement de la position que nous avons en Christ, des bénédictions que nous avons en lui, de ce que nous sommes, de ce que nous sommes devenus, de ce que nous deviendrons en lui, maintenant, le deuxième verset qu'il faut apprendre par cœur, c'est le premier verset du chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Maintenant que vous savez ce que vous êtes, ou que vous allez découvrir qui vous êtes, votre marche doit correspondre à votre position. Le verset parle de marcher d'une manière digne. Et le mot « digne » parle, c'est un mot, le mot grec original, c'est « axios », qui veut dire « balancer », un équilibre entre ce que vous êtes et ce que vous faites. Un équilibre. Et je cherchais un exemple pour bien illustrer, et le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est un arbre. Vous savez qu'un arbre, si on vous demande… C'est quoi les racines d'un arbre? Les racines d'un arbre, premièrement, on ne les voit pas. Hein? Ils sont dans la terre, c'est impossible de savoir. Sauf qu'un horticulteur me dit un jour, les racines de l'arbre sont le même diamètre que ses branches. Et il se met en équilibre. Et si vous coupez ses branches, il va vouloir reprendre sa forme pour reprendre la balance entre les racines et ses branches. Si vous mettez un arbre, un très grand arbre, puis vous y laissez ça de racines, il va dépérir. Il n'a pas assez de racines. Mais si vous taillez l'arbre et que vous avez des très grandes racines et un petit arbre, il va avoir de la place pour s'étendre. Il va pouvoir se développer et produire parce que c'est ses racines et les branches qui s'équilibrent, qui se balancent. C'est la même chose avec notre vie. La doctrine que nous comprenons, que nous avançons, que nous développons, que nous mûrissons dans notre vie, que nous accaparons, c'est une doctrine qui vient pour moi seul et pour chacun de vous qui lisez, va faire que je vais pouvoir marcher d'une manière digne de la vocation qui m'a été adressée. Pas de racines, pas d'arbre. Si vous dites, je veux savoir comment faire, comment ne pas faire. Je vais apprendre ça. Il faut que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça. OK? Bon, vous allez chez quelqu'un, vous dites, tu es chrétien, il faut que tu fasses ça, puis il ne faut pas que tu fasses ça. Et un de mes voisins, un jour, que j'avais annoncé l'Évangile, me dit à un moment donné, « Ah, ouais, il y a quelqu'un qui m'a annoncé ça, ton affaire, là. » Je dis, « Ah, ouais, il a de l'air à avoir... » Ouais, il dit, « Vous autres, c'est une gang de faire et de pas faire, là. » C'est quoi, ça? « Ben, chrétien, ça n'a pas le droit de faire ci, ça n'a pas le droit de faire ça, ça n'a pas le droit de faire ci, ça n'a pas le droit de faire ça. Puis il faut que ça fasse ça, il faut que ça fasse ça. » C'est pas ça, pas tout. Oh, non. Dieu ne nous demande pas seulement de faire ou de ne pas faire. Dieu nous demande d'être. Beaucoup plus que qu'est-ce que l'on fait, il nous demande d'être. Quand je me lève le matin et que je m'en vais à l'école, quand j'arrive à l'école, je suis censé enseigner. Je ne commencerai pas à faire de la mécanique, j'enseigne. Je ne commencerai pas à faire autre chose, c'est ça que je fais. Donc, je fais des actions d'enseignant. Et lorsque je m'en reviens à la maison et que j'ai de l'ouvrage à faire dans la mécanique, je deviens mécanicien, je n'enseigne plus. Tout simplement parce que je suis. Mais avant d'être un mécanicien, avant d'être un père de famille, avant d'être un mari, avant d'être n'importe quoi d'autre, qu'est-ce que je suis lorsque je me regarde dans le miroir le matin? À part d'être un vieux bonhomme lettre. Qu'est-ce que je suis? Je suis avant tout un chrétien. et ma marche devra être en accord avec la vocation qui m'est adressée. Ça n'a rien à voir avec mon physique. C'est dans mon cœur. Je devrais me considérer comme un chrétien et agir comme un chrétien. Peut-être que ça va m'emmener à avoir des luttes et des combats, on l'a vu dans Romains chapitre 7. Ça va m'emmener à avoir des luttes et des combats, oui, c'est vrai. Mais je vais toujours être capable de marcher d'une manière digne de la vocation qui m'est adressée, c'est-à-dire être chrétien. Et c'est comme ça que Dieu veut que je marche. C'est comme ça que Dieu veut me voir. Et il me donne la position idéale qui est décrite dans les trois premiers chapitres pour y arriver. Monsieur Joss McDowell disait, « Si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous serez toujours ce que vous avez toujours été. » Si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous serez toujours ce que vous avez toujours été. Si ma vie ne change pas, je ne suis pas un chrétien qui avance, qui mature, qui mûrit. Mais si mes actions changent en relation avec ma vocation, si j'ai un chrétien qui grandit. Et c'est à cela que l'Épître aux Éphésiens veut m'emmener. Et on regarde du chapitre 4 au chapitre 6. On pourrait même dresser un checklist. Il parle de l'Église, il parle de l'époux, l'épouse, il parle de la famille, il parle même de la société, employeur, employé, on pourrait l'appliquer à ça. On pourrait l'appliquer à d'autres choses aussi. Et on parle même d'une armure. Au chapitre 6. On parle même d'une armure indispensable aux chrétiens. Mais on pourrait dire, ça c'est un checklist. OK, je suis marié, oui, je fais ça, oui, je fais ça. Ça, je ne le fais pas encore, mais ça va venir un jour. Et on pourrait faire un check-up comme lorsqu'on décolle en avion. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Est-ce que je le fais selon ce que Dieu me demande? Est-ce que mes relations avec mes frères, mes sœurs sont selon ce que Dieu me demande? Est-ce que je marche dans l'amour? Est-ce que je professe la vérité dans l'amour? Est-ce que j'ai un amour pour tous les saints, vraiment? Ou est-ce que j'ai des choses à changer dans ma vie? Et chaque chose qui est mentionnée doit être mise devant moi en disant, comment je le fais? Et comment je devrais le faire? Et je devrais retourner à mes trois premiers chapitres pour dire, à quelque part, est-ce que je le fais selon ce que Dieu me demande? Dieu me demande de regarder ce livre-là et de me juger moi-même. Et il ne me demande pas de juger l'autre. Ça, j'en ai beaucoup à dire sur la manière de juger les autres. Je le fais facilement. Sauf que j'ai plus de misère lorsque je suis devant mon miroir et que je fais le même geste. Je suis plus miséricordieux pour moi-même. Mais ça devrait être le contraire. Je devrais me regarder plus franchement face à la parole de Dieu, face à ce que Dieu me demande et que ma vie change jour après jour, que je prenne des résolutions pour que ma vie s'en vienne plus à la ressemblance de celle de Christ. En conclusion, ce livre aux Éphésiens est un livre clé pour bien connaître la relation que nous avons avec Dieu. Mais cette relation a comme base l'amour. Celle que Dieu nous porte, premièrement. Dieu nous a prédestinés dans son amour. il nous a donné un grand amour, plus grand que qu'est-ce qu'on peut même penser. Et Christ nous habite enracinés et fondés dans l'amour. Et Dieu veut qu'on connaisse l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Celle que Dieu nous porte, l'amour que Dieu nous porte. Il veut que l'on sache. Il veut que l'on s'arrête aussi dans l'explication de ce livre-là, l'amour que nous devons à notre prochain. Et vous la connaissez, l'histoire, lorsque l'homme demande à Jésus, « Qui est mon prochain? » Vous le savez, ça, qui est votre prochain? Quelquefois, c'est quelqu'un qui vous tombe ses nerfs, votre prochain. Ça arrive dans les familles, les frères, les sœurs, « Oh, il me tombe ses nerfs. » Il est justement à l'âge qui tombe le plus ses nerfs. Mais déjà, Paul reconnaissait dans les Éphésiens l'amour qu'ils avaient pour tous les saints. Paul voyait qu'on devait professer la vérité dans l'amour afin que l'on croisse à tout égard. Paul nous exhortait aussi, Paul exhorte les Éphésiens, il nous exhorte nous aussi, à marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Vous êtes-vous déjà arrêté? C'est quoi ça? Marcher dans l'amour. C'est à méditer. C'est vraiment à trouver la signification de marcher dans l'amour. Et finalement, l'amour que nous devons à Christ. Et le dernier verset du livre, « La grâce soit avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. » La grâce soit avec ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Ce livre-là doit être approfondi, regardé, et Dieu veut nous gratifier de son amour à travers ce que l'on va lire. Nous allons découvrir l'amour de Dieu pour moi, pour toi, pour toi, pour toi, personnellement. Je ne peux pas le faire, le chemin à votre place. Ils vont faire le mien, puis ça va être déjà en masse. C'est votre chemin que vous devez faire. C'est les choses dans ce livre-là que vous devez découvrir. Je vous exhorte à venir constater cela dans l'Épître aux Éphésiens, dans les semaines qui vont venir. Prions. Merci Seigneur pour ce livre magnifique. Merci pour le fait que tu nous aimes d'un si grand amour. Tu nous as prédestinés dans ton amour. Tu nous aimais, Seigneur. Nous n'étions pas sur la terre, tu nous aimais. Tu nous as aimés, Seigneur, bien avant que nous puissions t'aimer. Tu nous as aimés même si nous taillissions bien souvent. Même si nous t'avions délaissé pour longtemps, tu as continué à nous aimer. Merci, Seigneur, d'être aussi tenace en amour. Merci pour nous favoriser, pour nous prédestiner. Merci, Seigneur, pour nous endurer jusque dans l'éternité. Mais, Seigneur, tu nous aimes parce que ton Fils est en nous. Tu nous aimes parce que, d'une façon particulière, parce que la valeur est vraiment dans ton Fils, est en Christ. Et Dieu a permis qu'il vienne à l'intérieur de nous. Nous te remercions, nous te rendons gloire. Et permets, Seigneur, que nous découvrions tous ensemble et chacun individuellement jusqu'où Christ est en nous. Jusqu'où je peux le voir, jusqu'où je peux le découvrir dans ma relation avec Christ, avec Dieu. Permet que je fasse là fidèlement et que je puisse marcher de manière digne de la vocation qui m'a été adressée. Merci infiniment pour ta grâce sur nous. Merci pour ta gloire, Seigneur. Tu vas délaisser toute gloire pour que l'on soit avec toi. Et nous t'en remercions et nous t'en remercierons pour jusque dans l'éternité. Par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ.